c'est pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que je s'en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite.
Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail.
Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier.
Je suis anarchiste. Nous allons repeindre la vie et lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 7 juillet 2016. Ce soir avec Laurent, nous allons vous parler de tout plein de choses. On parlera de transport au niveau local, on parlera du FN, on parlera de Monsieur Dassault entre autres, on parlera aussi de France Télécom. Nous parlerons de racisme avec Laurent, nous partirons par exemple dans l'Ain pour un festival de métal. Nous parlerons un petit peu de radio, et entre autres de Radio Courtoisie, et puis nous parlerons aussi pour terminer de ce qui se passe vers Bure. Mais pour commencer, nous souhaitions ce soir souhaiter un très 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 bon anniversaire au Canard Enchaîné, que nous aimons beaucoup lire tous les mercredis. Ou tous les jeudis quand nous sommes un petit peu en retard. On espère que vous aussi, de votre côté, vous avez été vous procurer par quelques moyens que ce soit ce numéro très coloré, hein, sur sa page de une.
Il y a beaucoup plus de rouge que d'habitude.
Oui, enfin en même temps, ça, hein, quand je dis coloré, hein, on est quand même...
Tout est relatif, il y a rouge et noir. Hein.
Voilà. Donc voilà, c'est juste pour dire, voilà, au bout de 100 ans, on peut encore faire de la presse indépendante, sans pub.
Sans aucun emprunt à quelque banque que ce soit, sans jamais de publicité, en résistant à la censure. Alors pas toujours, hein, des fois il y a eu des morceaux de journal qui étaient censurés, dont le Canard s'est souvent joué d'ailleurs. De cette censure, à une époque où la censure était directe d'État et très forte. Aujourd'hui, la censure est politico-économique, même plutôt d'ailleurs économique, et elle n'apparaît plus directement, mais elle est bien plus importante, hein, qu'autrefois, que l'époque qu'a vécu le Canard, hein, puisqu'il suffit de voir que la majorité des informations n'atterrissent jamais à l'antenne des médias dominants. Par contre, ça atterrit dans leur rédaction, donc la censure, elle s'effectue dans les rédactions aujourd'hui, sans intervention de l'État.
Et le Canard Enchaîné n'a pas manqué de saluer, comme nous allons le faire, Monsieur Michel Rocard. Pas pour faire des honneurs, hein, il me semble, dans notre Canu Info, mais dans le Canard Enchaîné, c'était pas trop le cas non plus d'ailleurs.
Non, parce que là, aujourd'hui, c'est encore record battu. Alors dimanche, on avait failli vomir du Rocard à tour de bras. Et aujourd'hui encore, lors des trois hommages, trois cérémonies, une religieuse, une officielle et une au siège du Parti Socialiste. Alors la religieuse nous rappelle que le Parti Socialiste a jamais été très moteur de l'émancipation de toutes les superstitions, les croyances irrationnelles, les croyances tout court, toutes ces choses qui sont le terreau un peu des phénomènes irrationnels que sont les sectes ou les religions. Bah oui, donc il a eu droit à son enterrement religieux. Il y a quand même une overdose de louanges de l'extrême droite à l'extrême gauche, alors que quand on regarde, même si quelque part il y a quelques actions symboliques qu'on défendrait encore aujourd'hui, l'anticolonialisme notamment, le reste du temps, c'est plutôt quelqu'un qu'on rangerait du côté de nos ennemis, un proche de Monsieur Macron idéologiquement, puisque c'est un social-libéral et un très gros libéral quand même. Donc voilà, on en a marre un peu de ces hommages, de ces louanges, sous prétexte qu'il est mort. Et que il a pris des coups dans sa vie parce qu'il s'est affronté à un colosse qui était François Mitterrand, un colosse de haine. Mais voilà, non, on en a vraiment marre. Il y a des gens qui meurent tous les jours et qui donnent leur vie à des causes nettement plus nobles et de manière nettement plus glorieuse que l'a fait Michel Rocard.
Oui, alors le Canard Enchaîné nous rappelle qu'à gauche, il y a des personnalités qui se sont tues, c'est-à-dire des gens qui n'étaient finalement pas ses amis. Et puis, tu parlais de l'extrême droite, alors quand même, il y a quelqu'un à l'extrême droite qui a tweeté, en l'occurrence, il s'agit de Monsieur Le Pen, qui lui n'a pas du tout apprécié de son vivant Monsieur Michel Rocard. Il explique, Monsieur Le Pen, on oublie de dire que Michel Rocard fut un combattant de la guerre d'Algérie dans le camp de l'ennemi. Alors, il attaque.
Ce que je disais, le seul truc sur lequel on soutient Rocard, c'est sur ça, et forcément, c'est le seul truc sur lequel attaque Le Pen.
Voilà. Donc, juste pour dire cette petite précision. On va continuer avec une info un petit peu plus locale, avec on va parler entre autres de Monsieur Wauquiez.
Et on va parler d'autoroute, puisque vous n'êtes pas sans savoir, alors nous on ne connaît pas bien parce qu'on ne se déplace pas en voiture, mais il y a une autoroute entre Lyon et Saint-Étienne qui fait qu'aujourd'hui Saint-Étienne est une espèce de banlieue lyonnaise, il faut quand même le dire, puisque l'autoroute est surchargée, c'est une des plus vieilles de France, voire la première autoroute de France en date de construction, qu'elle est old school, on dira, un peu vieille, et qu'elle est souvent bouchée. Parce qu'effectivement, il y a énormément de Stéphanois qui viennent travailler à Lyon. Donc ça bouche dans un sens le matin et ça bouche aussi dans l'autre sens le soir. Alors, Monsieur Wauquiez a une solution. Il l'a proposée au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le nom officiel de cette belle région, d'aider un petit peu la construction de cette autoroute, qui est chiffrée quand même à 1,2 milliard d'euros. Donc elle s'appellerait l'A45. Elle serait donc en parallèle de l'A47, l'autoroute actuelle. Alors on sait que bien évidemment l'écologie c'est pas du tout quelque chose que défend Monsieur Wauquiez, c'est pour ça qu'il défend une nouvelle autoroute en parallèle de la première et qu'il a proposé à la région que la région aide à la hauteur de 131,66 millions d'euros ce projet d'autoroute. Alors c'est assez outrageant pour ceux qui défendent l'écologie parce qu'il a supprimé pas mal d'aides aux assos écolos de la région et qu'en échange il donne de l'argent à des pollueurs, à des bétonneurs, à des destructeurs de la nature. Mais c'est dans la logique de Monsieur Wauquiez, donc il n'y a pas de surprise là-dessus, même si ça énerve certains et certaines, et nous d'ailleurs, il est dans la logique. Ce qui est moins compréhensible et plutôt louche, c'est pourquoi une nouvelle autoroute et pas une amélioration de l'ancienne. On sait qu'il y a un décret quand même d'utilité publique sur cette autoroute A45, mais ça date de 2008 et que, bon, pour l'instant, on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Et effectivement, il y a un audit qui a été lancé pour savoir si ça, c'est pas plus intéressant, ce qui est le plus intéressant, en fait, de refaire l'ancienne autoroute, la mettre aux normes et de l'améliorer, plutôt que d'en construire une nouvelle. Alors, on n'a pas le résultat de cet audit. Monsieur Wauquiez l'a pas révélé, il l'a gardé en secret pour l'instant. Mais lui, il dit que l'audit dit que c'est mieux de construire une nouvelle autoroute. Ça paraît un petit peu louche dans ce qui est annoncé, puisque sortir des trucs sans preuve comme ça, ça paraît bizarre. Alors peut-être qu'il a des amis qui bosseraient pour l'autoroute, je ne sais pas. Il y a sûrement une bonne raison au fait qu'il n'ait pas révélé cet audit qui lui a été donné il y a quelques temps. Sur les avantages d'une nouvelle autoroute. En tout cas, ça énerve tous les élus qui sont concernés, parce qu'on rappelle que c'est une région dans laquelle il y a pas mal de paysans, hein, qui font de l'agriculture locale. Hein, c'est une région qui alimente beaucoup, d'ailleurs, la région lyonnaise en différents produits de la terre. Et que ça tape directement dedans. Hein. Il y a aussi du vin, d'ailleurs, dans cette région. Et là, on détruit, du coup, un patrimoine. Alors, on pensait que, en tant qu'homme de droite, il défendrait le patrimoine. Mais non, a priori, le bétonnage est plus important que le patrimoine culinaire ou le patrimoine des paysans. Dans la tête, dans les idées de Monsieur Wauquiez. Donc voilà, alors bien évidemment, il y avait des solutions alternatives. Il y en a une qui est défendue depuis des années par ceux qui sont plutôt du côté de l'écologie, c'est ben, faut pas améliorer une autoroute, puisque ça augmente le nombre de voitures, il faut améliorer les alternatives à la voiture, développer des lignes de RER, Lyon-Saint-Etienne, Longiver, Lyon-Vienne, hein, qui sont surchargées, qui sont sous-utilisées aussi. Mais non, a priori, M. Wauquiez n'aime pas le train, il préfère la voiture. Alors, on n'a pas le résultat du vote, mais comme il est majoritaire, il devrait gagner. Et il devrait pouvoir donner de l'argent donc à ses amis bétonneurs.
Alors, je propose qu'on continue avec un autre transport. On va parler d'avion, et plus précisément, on va parler de l'aéroport de Saint-Exupéry. Vous savez que la presse appelle ça l'aéroport de Lyon. Moi, ça me fait toujours un petit peu rigoler, mais bon, peut-être parce que je suis d'ici que je trouve ça bizarre. Alors, lundi midi se terminait le dépôt des offres fermes pour les candidats intéressés à la reprise de 60% du capital de l'aéroport de Saint-Exupéry, capital cédé par l'État, je vous le rappelle. L'État espère, avec toutes ses ventes, tout ça, récupérer quand même du milliard d'euros, hein, il faut le dire, et essayer de renflouer les caisses. Alors, d'après un petit peu ce qu'on en sait, c'est les Échos qui a sorti cette information. Il y aurait candidat à la reprise de cet aéroport de Saint-Exupéry. Alors on trouve Vinci Airport qui s'est associé à la Caisse des dépôts et avec un assureur Prédica qui est une filiale du Crédit Agricole. On trouve un groupe d'investissement français Meridiam qui s'est associé avec un groupe espagnol de BTP, Ferrovial. On trouve un autre groupe d'investissement Ardian. On trouve un groupe Altantia, en gros c'est un groupe italien. On trouve aussi un groupe australien qui s'associe à la holding familiale de Peugeot, FPP. Et puis, on trouve le groupe turc Limac. Alors, il faut savoir qu'une partie de ces prétendants sont aussi prétendants pour le rachat de l'aéroport de Nice. Il me semble qu'il y a aussi l'assureur Alliance qui s'est ajouté aussi sur la liste pour l'aéroport de Nice, si je ne dis pas de bêtises. Alors, évidemment, ces rachats d'aéroports, ça fait causer. Ça fait causer d'abord un certain nombre de riverains qui ont peur que les limites qu'ils ont pu imposer pour l'instant, ou en tout cas imposer, le terme était un peu fort, mais en tout cas arriver à gérer avec l'aéroport et l'État, et ben ces avantages qui n'en sont pas, mais en tout cas ces possibilités soient amoindries avec le rachat de 60% de ces capitaux. On a aussi tout un tas de questions financières, comment ça va se passer, et puis il y a des questions politiques. Et M. Wauquiez répond tout à fait à ces questions, puisque lui, il a tout de suite fait savoir qu'il ne souhaitait pas que ça soit un groupe étranger qui rachète l'aéroport de Saint-Exupéry, et surtout pas un groupe turc. Ouais. C'est ce qu'il a déclaré.
Bon, le racisme est de retour. C'est intéressant parce que quand les multinationales françaises achètent des aéroports, des ports à l'étranger, c'est toute la classe politique, notamment de droite, est contente. Par contre, quand c'est dans l'autre sens, ils ne sont pas contents. On veut savoir que ce sont toutes des multinationales et que c'est pas pire que ça soit une multinationale turque, chinoise, belge, italienne, espagnole ou française.
Voilà. Donc on en saura un petit peu plus cet été puisque tout ça va être validé en cours de l'été pour ensuite un transfert des parts à l'automne.
Le reste étant détenu par qui? La CCI peut-être
Alors sinon c'est l'État et puis donc qui détient les parts des aéroports la part qui va rester. Ah bon. Mais c'est essaye de se désengager, oui.
Alors on reste dans la région, on va aller à Villeurbanne puisque une élue a fait parler d'elle un petit peu et a eu l'air pas mal ridicule. C'est une élue du Front National et c'est au sujet des femmes. Alors si vous avez vu récemment, enfin depuis un moment d'ailleurs, le Front National fait semblant d'être du côté des femmes. On les a connues officiellement contre l'avortement, contre la contraception, tout ça. C'est pas dans l'air du temps. Alors ça reste hein, au fond du programme caché du FN, bien évidemment. Mais dans l'air du temps, c'est l'inverse. Hein. On a vu Marine Le Pen défendre, dire que le FN était le parti protecteur des femmes. Bon, on a vu Sophie Montel aussi, une eurodéputée FN, dire à peu près la même chose, qu'elle défendait la contraception, etc. On sait bien que c'est des discours électoralistes et que c'est assez peu vraisemblable hein, en connaissant le passé du Front National et surtout la composition des gens qui adhèrent au Front National, notamment l'extrême droite catholique et à Lyon particulièrement l'extrême droite catholique lyonnaise. Qui vote et qui fait partie du Front National. Et la preuve supplémentaire est arrivée par un article du Progrès d'hier, puisque c'est Béatrice Branska-Faril, qui est conseillère municipale FN à Villeurbanne, qui a parlé un petit peu fort lundi dernier au conseil municipal de Villeurbanne, puisqu'elle a dénoncé l'attribution d'une subvention de 2500 euros à destination d'un projet artistique qui s'appelle Vénus 7. Alors c'est quoi le sujet du projet artistique? C'est le dépistage du cancer du sein. Bon, on se dit, bah pourquoi? Parce que le cancer du sein, ça tue quand même à peu près 12 000 femmes par an, c'est un truc, et quelques hommes aussi. C'est pas limité aux femmes, même si c'est très majoritairement chez les femmes. Bon, alors a priori, elle a rien contre le dépistage, cette dame. Mais ce qui la choque, c'est que le projet va montrer des seins. Et que pour lutter contre le cancer du sein, il faut pas montrer des seins. C'est tabou, le sein c'est mal, c'est sexuel, c'est moche, c'est tout ce qu'on veut. Alors elle dénonce ça au nom d'une soi-disant exploitation du corps de la femme. Alors l'exploitation du corps de la femme, il y en a sur des tonnes de publicités, à la télé, dans les rues, tout ça. Elle ferme sa gueule. Par contre là, quand c'est pour une campagne, pour demander aux femmes d'aller se faire dépister, pour découvrir des cancers du sein le plus tôt possible, elle est contre. Bref, elle aime pas les seins nus, elle doit pas aimer le naturisme ou des choses comme ça. Donc elle a hurlé pour pas qu'il y ait de subventionnement de la ville de Villeurbanne pour cette campagne qui allait montrer des seins de femmes pour ce dépistage du cancer du sein. Bon, elle a eu l'air ridicule et bien heureusement, le conseil municipal a voté l'attribution de ces 2500 euros à cette campagne.
Alors parfois, les costumes exposés au musée des tissus de Lyon peuvent mettre en valeur les seins des femmes. En tout cas, c'est pas de la collection du musée dont nous allons parler, mais de l'annonce du ministère de la Culture mardi. On n'en sait pas grand-chose, hein. Donc ça va être très très bref ce que je vais vous raconter. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le ministère a annoncé qu'une association allait être créée à l'automne et que cette association allait gérer le musée dès le 1er janvier 2017. D'après le ministère de la Culture, l'association permettra aux différents partenaires de faire vivre le musée tout en rendant possible l'ouverture d'une période de réflexion sur l'évolution statutaire du musée et de ses collections et de la définition du projet scientifique et culturel à moyen terme. Voilà, l'idée c'est de gagner encore du temps. Hein, puisque tout ça c'est pas stabilisé. Bon, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait cette solution là qui soit proposée. Reste qu'il va falloir quand même trouver de la thune. Hein, vous avez raconté ça. Le bâtiment a besoin d'une sérieuse rénovation, d'une remise aux normes. Il y aura pas les financements publics nécessaires, donc il va falloir trouver de généreux donateurs privés avec des entreprises. Il va donc y avoir la création d'un fonds de dotation qui va être ouvert. Voilà, maintenant on verra peut-être qu'il faut en reparler en juillet 2017 pour savoir si tout ça a porté ses fruits.
On va parler un petit peu justice avec deux nouvelles qui nous font quelque part pour l'instant plaisir, même si on n'est pas forcément pour les condamnations en justice, hein, on vous le rappelle. Mais bon, là quand même, ça fait un peu plaisir. Alors, c'est au sujet de France Télécom qui est devenu Orange, hein, je vous rappelle. C'est la même boîte, hein, ils ont juste changé de nom. Donc, il y a eu 7 ans d'enquête autour des suicides hein, qui ont eu lieu dans cette entreprise. Une grosse vague de suicides quand même entre 2006 et 2009. Et le parquet de Paris a demandé le renvoi du procès pour harcèlement moral. Donc et notamment de l'ancien PDG Didier Lombard en correctionnel. Donc il est poursuivi au pénal, ce qui est une très très bonne nouvelle. Alors on rappelle les faits. Hein. Donc, quand Didier Lombard, en 2005, prend la tête de France Télécom, l'entreprise a une grosse dette et il est mandaté, en fait, pour essayer de diminuer cette dette. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va faire sauter tout ce qui peut sauter dans l'entreprise pour diminuer la dette et notamment virer les salariés. Alors, il va pas virer, il va faire essentiellement pression sur les salariés et tellement pression qu'il va, ça va a priori être une des raisons, voire la raison principale de la mort de certains salariés qui vont se suicider. Donc une grosse restructuration, 20 000 personnes sont concernées, des départs volontaires qui ne sont pas tout à fait volontaires. Tu voulais dire quelque chose ?
Non, je suis d'accord.
Du bruit, alors j'entends.
Non, pardon.
Donc voilà, il avait dit d'ailleurs en 2006, je cite, je ferai ces départs d'une façon ou d'une autre par la fenêtre ou par la porte. Ah bah, il y en a qui sont partis par la fenêtre, effectivement, puisqu'il y en a qui se sont jetés de la fenêtre, qui ont suivi son discours. Donc le parquet de Paris veut le poursuivre aujourd'hui pour ses agissements en tant que qu'instigateur, en fait, de cette politique qui visait à déstabiliser les salariés, et comme le dit le parquet de Paris, a créé un climat professionnel anxiogène. Alors les suicides, hein, c'est 60 personnes qui se sont donné la mort à France Télécom entre 2006 et 2009. Donc voilà, il est plus Didier Lombard directeur de France Télécom. Ils sont arrivés à le mettre de côté, mais c'est bien qu'il soit poursuivi devant la justice et en correctionnel. Et puis toujours avec la justice, alors pour l'instant on n'a pas la réponse, mais ça concerne Serge Dassault, puisque le parquet, donc c'est pareil, lui il était poursuivi pour, alors pas pour la même raison, pour blanchiment de fraude fiscale, et le parquet a requis 5 ans d'inéligibilité, 2 ans de prison et 9 millions d'euros, 2 ans de prison avec sursis, hein, parce qu'on ne met pas les méchants voleurs riches, comme Dassault en prison, hein, mais et 9 millions d'euros d'amende. Donc selon le parquet national financier, c'est le nom, ce sénateur de droite, hein, il fait partie des Républicains, le parti de Sarkozy, il est accusé, a priori avec pas mal de preuves, d'avoir dissimulé au fisc 31 millions d'euros sur des comptes au Luxembourg, au Liechtenstein. Ça veut dire qu'il a volé l'État, hein, de l'argent qui n'est pas rentré dans les caisses de l'État. Donc c'est bien du vol, hein, dont il est question, c'est le nom de blanchiment de fraude fiscale, hein, c'est l'équivalent du vol pour les riches. Hein, vous pouvez pas voler comme ça, eux ils peuvent. Donc voilà, c'est la deuxième fois, hein, qu'il risque de perdre son mandat électoral, ce qui l'empêche pas d'instrumentaliser la politique, puisqu'il met une personne fantoche à sa place, ce qui s'est passé en 2009. Donc voilà, il avait été condamné pour avoir acheté des votes, donné de l'argent à des électeurs. Enfin, c'est pas la première fois qu'il triche, c'est pas la première fois qu'il se fait prendre. On espère qu'effectivement que la justice va le condamner, même si cette peine semble très légère par rapport aux actes qu'il a pu faire. Et il a été, d'ailleurs, très provocateur, et c'est pour ça que peut-être que la justice va le condamner, c'est qu'il n'a même pas daigné venir à son procès. Il avait une inauguration, enfin non, un baptême de la promotion de son école, donc qui s'appelle l'école Marcel Dassault. Il a préféré aller au baptême de cette promotion d'élèves de son école, plutôt que d'aller devant la justice, c'est dire ce qu'il pense de la justice républicaine, ce qu'il pense des impôts, ce qu'il pense de tout un chacun, de nous, de vous. C'est un énorme mépris, dirons-nous, et ça pourrait faire basculer la justice dans une condamnation, certes légère, mais une condamnation quand même.
Alors, on va continuer avec les profiteurs et on va partir en Allemagne et on va parler des constructeurs automobiles. Alors, après l'affaire Volkswagen, va-t-il y avoir une nouvelle affaire? L'autorité allemande de la concurrence a fait savoir qu'elle avait mené une perquisition fin juin dans le secteur de l'industrie automobile. Elle soupçonne l'industrie d'entente sur les prix d'achat de l'acier. Alors, mardi, l'autorité allemande a fait savoir qu'elle avait perquisitionné le 23 juin les locaux de 6 entreprises. Par contre, l'autorité a refusé de donner les noms des groupes automobiles concernés en Allemagne. Finalement, on en sait un peu plus, puisque les constructeurs Volkswagen, BMW et Daimler ont fait savoir qu'effectivement, ils avaient été perquisitionnés. Et puis, il faut y rajouter Bosch, le grand équipementier automobile qui aussi est visé par ces perquisitions. Alors là, j'aime bien parce qu'ils disent qu'ils collaborent. Ah, ça a pour collaborer ? Ils collaborent. Hein. Par contre, on n'en sait pas bien plus. Alors, à côté de ça, l'autorité de la concurrence allemande a fait savoir que c'est pas parce qu'il y avait eu perquisition qu'il y a culpabilité. Hein. On va pas tout de suite s'emballer. Bon, il faut quand même savoir qu'il y a eu 50 salariés de l'autorité de la concurrence allemande qui ont pris part aux perquisitions.
Ah oui, c'est une grosse mobilisation.
Pour un truc qui n'aurait pas eu lieu, c'est quand même une grosse mobilisation. Bon, pour l'instant, l'enquête va se poursuivre, hein, on en saura plus dans quelques temps. Et côté, effectivement, autorité de la concurrence, on va revenir en France, puisque c'est les chiffres de 2015 qui sont très très impressionnants, puisque c'est plus d'un milliard d'euros qui ont été pris lors de sanctions auprès des entreprises suite à la condamnation de l'autorité de la concurrence en France. C'est assez incroyable, puisque l'année dernière on était déjà sur 1 milliard d'euros, là on les a largement dépassés. On est à 1 200 millions d'euros, hein, donc c'est beaucoup. Et en fait, c'est pas juste là, c'est pas juste parce qu'il y a eu des grosses affaires avec des grosses sanctions financières. C'est qu'en fait, ça fait déjà plusieurs années que ça augmente et que l'autorité, maintenant, elle tape fort et puis elle tape souvent. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Vous voyez, quand les entreprises font ce genre de choses, il y a du retour financier, hein. Voilà. Mais en tout cas, ça montre aussi que il y a beaucoup d'affaires d'entente. C'est principalement le sujet de ces sanctions de l'autorité de la concurrence en France. Pour beaucoup, ça concerne des produits qui, nous, en tant que consommateurs et consommatrices, nous concernent. Après, il y a aussi des grosses affaires, comme là, il peut y avoir l'acier en Allemagne. Ça concerne plusieurs secteurs, mais beaucoup de ces ententes nous concernent, nous, directement, parce que c'est le prix de la lessive, des yaourts, du poulet et toutes ces choses, quoi.
Oui, qu'on paye plus cher que ce qu'on devrait payer.
Tout à fait.
On va faire une rubrique sur la haine et sur le racisme. On va commencer par la haine avec le bilan de l'attentat de dimanche dernier à Bagdad qui grimpe. Donc on est passé à 292 morts aujourd'hui. Donc on rappelle, c'est 292 morts, il y a 115 corps qui ont déjà été identifiés et remis à leur famille. Les 177 autres personnes, ils cherchent à savoir qui c'est. C'était perpétré dans le quartier chiite, donc et revendiqué bien évidemment par les musulmans sunnites, notamment le groupe État islamique qui est derrière ça. C'est toujours cette guerre religieuse, politique, pleine de haine entre sunnites et chiites. Et puis des gaines pour du bout de pouvoir qui sont en jeu et qui font des morts chaque semaine très régulièrement. Ça n'a pas été ultra médiatisé cet attentat, on en a parlé un petit peu quand même dimanche, mais il y a tellement d'actualité avec des gens qui courent après un ballon que l'attentat arrive en fin de journal. Et bien évidemment, 292 morts, c'est pas important par rapport à quelques connards qui courent après un ballon, millionnaires plutôt, qui courent après un ballon. Ça remontre en tout cas que l'État irakien ne gère rien du tout, qu'il a accentué ce confessionnalisme, ces problèmes sunnites chiites. Ils sont jamais arrivés à régler ça, ils ont jamais voulu le régler, et leurs amis, d'ailleurs, les Occidentaux, la France, les États-Unis, n'ont pas vraiment travaillé non plus pour que ça aille dans le bon sens et pour qu'il y ait une entente et un réel gouvernement de coalition nationale avec des sunnites, des chiites, des chrétiens, quelques athées. Ils sont pas forcément très nombreux, mais il y en a aussi. Non, on en est toujours à ce confessionnalisme en Irak. Bon, ça a quand même poussé à la démission le ministre de l'Intérieur, mais bon, ça va pas bien plus loin que ça. On pense que effectivement, il y aura d'autres attentats et que la situation n'est pas prête de s'améliorer, même si on leur souhaite que ça aille dans un sens plus pacifique. Et puis maintenant, c'est au tour du racisme de faire la une de ce Canu Info, avec une bonne nouvelle sur un député polonais qui s'en est pris plein la gueule, mais qui récidive déjà le jour même. Donc c'est un député polonais d'extrême droite, coutumier des dérapages racistes, qui a été sanctionné aujourd'hui par le Parlement européen. Et alors, il avait déclaré que l'arrivée massive d'immigrants en Europe était comparable à un déversement d'excréments. Voilà, donc les pauvres hommes et femmes et enfants qui fuient les guerres, la haine, la misère, ce sont juste des excréments. C'est quand même assez horrible de qualifier quelqu'un d'excrément. Et la sanction est tombée, une sanction très faible, moi je trouve, par rapport à ce qu'il a dit, puisqu'il va être privé de 10 jours d'indemnité. Alors 10 jours d'indemnité, c'est 3060 euros, ils sont super bien payés ces gens-là. Et puis en septembre, il va être suspendu pendant 5 jours. Bon. Moi, je trouve que c'est hyper léger pour avoir traité des êtres humains d'excréments. Mais bon, c'est Martin Schulz, le président du Parlement européen, t'es content de lui. Bon, je sais pas. Moi, je trouve ça assez léger. En tout cas, c'est pas la première fois, hein, il avait déjà fait ça. Il avait fait le salut hitlérien au Parlement en 2015. Et là, dès ce jour-là, il a continué de faire sa provocation raciste. Et il a dit qu'il suggérait au Parlement d'acheter un lopin de terre en Afrique pour y créer un État pour les albinos. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. Et qu'il pouvait en profiter pour détruire l'Union européenne. Bon, il cherche une nouvelle sanction. Il vit, comme beaucoup de fachos, de militants d'extrême droite, toute politique populiste et d'extrême droite, ils se font remarquer par leurs propos comme ça tendancieux pour faire parler d'eux. Mais ce qu'on notera quand même, c'est qu'il y a vraiment une impunité, parce que c'est pas quelques jours de sanctions. Ben voilà, il doit toucher donc 10 jours. C'est-à-dire qu'il touche 9 000 euros par mois, il lui enlève 3 000, il lui reste 6 000 pour vivre. C'est beaucoup plus que la majorité des gens en France. Donc on se dit que finalement, c'est pas une sanction, c'est voilà juste pour lui dire « Ah, c'était mal ce que t'as fait, t'as pas eu de bon point ce coup-ci. » Voilà, c'est un peu ça. Triste quand même, même si la condamnation symboliquement est importante. Et puis en Jordanie, une bonne nouvelle. Ah ben non, c'est pas, je suis passé à la Jordanie, c'est pas maintenant la Jordanie.
Oh, mais tu peux en parler tout de suite.
Écoute. Non,
vas-y, tu es lancé, je t'en prie, allez.
Bon, la Jordanie, la bonne nouvelle, c'est que il y a une toute petite avancée, une micro-avancée sur la présence, la mention de la religion sur la carte d'identité. Actuellement, dans les cartes d'identité actuelles, il y a mention de la religion, ce qui pose problème, notamment pour les gens qui n'ont pas de religion. Mais, ou qui sont athées, quoi. Mais, donc là, il y a une première nouvelle qui a été annoncée hier par les autorités jordaniennes, c'est que la mention de l'appartenance religieuse ne figurera plus sur les nouvelles cartes d'identité, hein, qui vont arriver progressivement dans le pays. Par contre, dans la puce électronique, ça sera toujours précisé. Il y a aussi d'autres infos, comme les empreintes digitales, le groupe sanguin, comme chez nous, bientôt, le code fiscal, enfin plein de choses. Mais ça sera toujours quand même noté dans cette puce, mais qui n'est pas lisible et qui n'est pas visible par un policier, par un fonctionnaire. Donc du coup, la discrimination religieuse sera moins importante en Jordanie, ce qui est un des gros des problèmes. Alors l'idée de cette carte d'identité, hein, c'est de renforcer la sécurité aussi au moment des élections. Voilà. Bon, c'est une bonne nouvelle pour essayer de pacifier le pays qui est pas très pacifié. Et puis pour terminer, donc dans les infos sur les racistes, là c'était pas sur le racisme en Jordanie, mais quelque part si, hein, au niveau de la religion. On va parler brièvement du festival métal qui a lieu dans l'Ain, qui s'appelle le Ragnarok Fest, qui doit être la deuxième édition, c'est à Simande-sur-Suran. Et l'année dernière, ils avaient déjà fait parler d'eux, il y avait déjà eu un article sur Rebellion qui était très 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 mal fait, et qui annonçait un festival d'extrême droite, il y avait quelques groupes limites. Là, à nouveau, un article sur Rebellion, qui est lui aussi très très mal fait. On a l'impression d'avoir un festival avec des groupes, que des groupes d'extrême droite, que le festival est ouvertement néo-fasciste, des choses comme ça. Alors c'est bien plus compliqué que ça, même si c'est important de rappeler qu'il y a un énorme problème dans ce festival et dans la mouvance qui est citée et qui est invitée par le festival, qui s'appelle le Pagan Metal, hein, ou la scène qui est à cheval sur la scène Black Metal et la scène Pagan Metal. Puisqu'on a des groupes quand même ouvertement fachos, hein, qui viennent, il y a Graveland, il y a le groupe de l'élu de Aube Dorée, vous savez, le parti néo-nazi grec, qui s'appelle Ner Materon, c'est le nom de son groupe, il y a Croda, il y a Nocturnal Mortum, des groupes comme ça qui sont vraiment des groupes de faf, qui sont en lien avec la mouvance black metal d'extrême droite, qui s'appelle la NSBN, National Socialism Black Metal. Donc il y a un énorme problème dans ce festival, et surtout dans les gens qui s'en occupent, puisque ouvertement ils disent qu'ils prennent des groupes qui sont en accord avec leur morale. Alors si leur morale c'est ça, ça fait un petit peu peur. Mais c'est plus compliqué que ça, dans le sens où l'article de Rebellion est très mal fait, puisqu'il repositionne pas un petit peu toute cette scène-là, il n'explique pas d'où ça vient. Que cette scène black metal, cette scène pagan metal, s'est montée en rejet notamment de l'église des chrétiens dans ces pays du Nord, a mis en avant, et c'est le côté dangereux, directement ou indirectement, cette scène pagan, c'est-à-dire le côté pagan, le côté les religions anciennes sont plus importantes, étaient mieux avant que le christianisme. En fait, ils instrumentalisent un peu un passé idéalisé, comme se servaient d'ailleurs les nazis, hein, qui ont pas mal utilisé ce paganisme dans les années 30 et 40 du siècle dernier. Mais la majorité de ces groupes sont pas comme ça, ils sont juste bêtes en fait. Et c'est là où il faut relativiser les choses. Il y a plein de groupes qui utilisent cette imagerie viking, puisque le festival se tarde d'être un festival viking, et se servent de cette imagerie viking, du côté un peu guerrier, qui va bien avec la musique violente que peut-être le métal, et qui ont pas du tout conscience, et c'est le problème, de ce que ça peut entraîner derrière, parce que forcément, je sais pas, moi, un viking qui arrive et qui viole à tour de bras, c'est pas forcément une image positive, même si c'est véhiculé de manière, enfin, un peu au second degré ou de manière inconsciente. Donc, ce qu'il faudrait dire sur cette scène métal, c'est pas qu'elle est tout le temps néo-fasciste, qu'elle fait venir des groupes d'extrême droite. Il faut condamner l'arrivée des groupes d'extrême droite, faire pression pour qu'ils ne soient pas programmés dans ce festival. Mais il faudrait surtout informer les métallos et la scène, cette scène-là, que c'est pas anodin d'utiliser le paganisme, c'est pas anodin d'utiliser le satanisme, si c'est pas du second degré, si c'est pas resitué dans un contexte historique, parce que idéologiquement, ce sont des choses qui sont pas défendables aujourd'hui, qui ne l'étaient sûrement pas à l'époque d'ailleurs, mais qui sont tous sauf progressistes, hein. Ce sont des idées qui sont très réactionnaires. Et voilà, et c'est là où il faudrait qu'il y ait, à mon avis, beaucoup plus d'informations, parce qu'effectivement, la majorité de ces groupes qui sont là, qui s'habillent en viking, ils défendent pas le viol, ils défendent pas les fachos, ils sont juste dans une espèce de théâtre avec cette imagerie-là. Et eh ben il pourrait à un moment faire attention à cette imagerie-là, parce que ça peut avoir un impact et ça peut être dangereux. Donc voilà, l'article est moi je trouve trop excessif dans ce qu'il dénonce. Par contre, ce qu'il dénonce, ça existe malheureusement vraiment, et notamment dans ce festival.
Alors on va parler de radio, et on va commencer par parler de ce qui se passe à Radio Courtoisie, parce que moi ça me fait bien rigoler.
Une radio d'extrême droite.
C'est l'histoire d'une radio qui trouve que son président est trop facho.
Ah, c'est quand même pas mal pour Radio Courtoisie.
Oui. Alors il y avait une première lettre publique publiée sur le Salon Belge, qui est un site internet de traditionaliste catholique.
Très à l'extrême droite aussi.
Et puis il y a une deuxième lettre qui est parue le 22 juin. Globalement, il y a des responsables d'émission de Radio Courtoisie qui demandent le départ du président. Alors comme j'écoute pas Radio Courtoisie, je ne sais jamais s'il faut dire Henri Delecq ou de Lécan, je crois que c'est de Lécan.
De Lécuyenne,
hein. Ouais, de Lécuyenne, c'est ça. Je ne sais jamais prononcer son nom.
C'est lui qui se présente à l'élection présidentielle.
Tout à fait, l'élection présidentielle de 2017. Il faut dire qu'il a un programme, ma foi, simple et efficace. Hein. Je vous rappelle qu'alors, il n'aime pas la musique nègre. Hein. Je sais pas, vous aviez entendu ça?
Oui, il avait dit ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est la musique nègre.
Voilà, donc lui, il n'aime pas ça. Qu'est-ce que j'ai pu lire? Les deux trucs que j'ai retenus de pire, c'est ça, mais le reste est quand même pas beau non plus. Hein. Et puis, il parle de religion de la Shoah, j'ai lu ça aussi quelque part.
Ah, c'est une religion, la Shoah.
Voilà, non mais la religion de la Shoah, on sait pas bien ce qui veut dire par là. Bon, il a des amis, hein, comme Monsieur Forisson, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, il y a des gens à Radio Courtoisie qui pensent qu'il y a un moment, le mélange entre l'homme politique qu'il veut être et le président de radio et l'animateur de radio qu'il est va poser problème, et que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pourrait intervenir une fois de plus.
Ouais, enfin, je pense que c'est ça, c'est de ce dont ils ont peur, parce qu'au niveau idée, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Mais jusqu'à maintenant, Radio Courtoisie a souvent flirté comme ça avec l'illégalité, mais en essayant d'être toujours du bon côté, hein, en essayant de jamais basculer dans ce qui était trop illégal, trop répréhensible. Et là, vraisemblablement, lui, il dépasse un petit peu les bornes.
Ouais, alors faut se rendre compte aussi qu'avec le mariage pour tous, ces mobilisations, Radio Courtoisie a connu un petit succès finalement en relayant ces mobilisations. La radio s'est toujours présentée comme la radio des droites. Donc là, oui, nous on appelle ça l'extrême droite, mais bon, chacun sa droite. Hein. En tout cas, Monsieur le Président n'a pas l'intention de partir. Il explique que s'il est radical, c'est qu'il défend les valeurs des fondateurs de Radio Courtoisie. Hein, Jean Ferré était un ancien de l'OAS, et Serge de Becquetch, un ancien de Minute. Voilà, donc c'est... pour ça, c'est par respect globalement, si je peux synthétiser son idée et ses arguments, c'est par respect pour les fondateurs de Radio Courtoisie qu'il est radical, parce que Bon, faut dire que lui, il l'est particulièrement. On rappellera aussi qu'il avait eu son compte Twitter bloqué. C'est pour vous dire, hein, quand une multinationale se met à bloquer votre compte Twitter, c'est que vous allez particulièrement loin. Puis alors, on n'a pas parlé ici de ce scandale Fun Radio. Oui, je prends ma voix Fun Radio pour dire ça.
Ouais. Ils ont un peu triché.
Alors moi, j'appelle pas ça un scandale. Hein. Il faut arrêter de se moquer de l'affaire. Ce sont les concurrents, donc les radios commerciales, qui ont porté plainte et accusé Fun Radio d'avoir amené ses auditeurs et ses auditrices à se déclarer plus à l'écoute de Fun Radio que peut-être les auditeurs et les auditrices pouvaient l'être. Tout ça pour influencer les chiffres de Médiamétrie. Médiamétrie, c'est pas un truc pour nous. Hein. C'est un truc pour les radios commerciales qui leur permet de négocier la publicité, les tarifs de la publicité. Donc en fait c'est juste un truc de petit profiteur capitaliste, hein, c'est pas une affaire qui nous concerne. Donc parler de scandale de la part des radios comme RMC, Skyrock, Energy, ça fait un petit peu rigoler. Reste que bon, le groupe RTL est un petit peu dans la merde quand même avec cette affaire, puisque finalement ils ne feront pas partie des prochains chiffres de Médiamétrie là pour juillet. Ça aussi franchement on s'en fiche, mais alors royalement, c'est juste un mois de perdu, quoi.
Ouais, mais ils vont avoir du mal à dire ça vaut tant la pub sur notre radio, quoi.
Voilà ce que j'en dis. Par contre, je vous envoie lire sur le site d'Acrimed une très belle carte que vous pouvez garder même dans vos petites affaires pour vous souvenir. Moi, je l'ai téléchargée personnellement. Acrimed et le monde diplomatique se sont associés pour nous proposer une carte représentant le paysage médiatique français. Ça nous permet de bien comprendre la concentration de nos médias.
Oui, du coup, c'est une carte capitaliste.
Ouais, mais c'est vachement bien fait.
Qui possède quoi ?
Ils ont, enfin, ces gens de cartes, pour la faire au début, je pense que c'est hyper galère parce qu'il faut arriver à retrouver dans le bon sens toutes ces informations, les arriver à les mettre à plat, hein, sur un papier. Et par contre, une fois que c'est fait, je pense que plus facilement, maintenant, on va pouvoir rebouger les petits liens entre tel quotidien, par exemple, et tel groupe de médias ou pas. Parce qu'il faut bien dire quand même que ça change très très souvent dans le secteur. Et donc, c'est, moi, je trouve très intéressant d'avoir cette carte. Allez donc la regarder un petit peu, c'est vachement bien.
On va rester dans le capitalisme. Et je vais vous parler des cartes bancaires. Alors, vous savez, pendant des années, le groupement des cartes bancaires nous a fait croire, de manière très mensongère, que les cartes étaient fiables et qu'il n'y avait aucun problème de sécurité sur les cartes bancaires. Et puis, petit à petit, des gens se sont dit « Ah, mais attendez, moi, ma carte a été détournée par différents moyens. » Et d'un coup, ils ont été obligés de faire leur mea culpa en disant « Oui, c'est bon, des fois, il y a des détournements de cartes bancaires. » Donc aujourd'hui, on a la Banque de France qui publie un résultat de la sécurité des cartes de paiement. Alors c'est toujours un peu tabou, mais beaucoup moins. Alors c'est encore un peu tabou, pour preuve, sur France Info, hier, quand ça a été révélé, ils ont annoncé glorieusement que la sécurité progressait sur les cartes bancaires. Or, quand on regarde les chiffres, bah, c'est pas vrai. Ça dépend tout simplement de la manière dont on regarde les chiffres. Alors, par exemple, donc grosso modo, en fait, je pense qu'on est à la quatrième année d'augmentation sur les cinq dernières du nombre de la valeur des fraudes bancaires. Hein, on est à 0,07% aujourd'hui. Alors, c'est la dernière date en date, c'est l'étude, c'est 2015. Alors qu'avant, on était à 0,069, donc ça a augmenté. Et en 2010, c'était 0,57% de l'argent échangé sur les cartes bancaires qui était de manière frauduleuse. Donc ça fait que augmenter. Donc le seul truc qui pourrait rassurer tout le monde, c'est que ça progresse moins qu'avant. Mais ça continue de progresser. Certes, ce qui diminue, c'est le nombre de fraudes. Mais par contre, les fraudes sont plus élevées, ont des montants plus élevés. Alors, ceux qui sont du côté du capitalisme, comme l'était France Info hier matin, ils se réduisent de ce nombre de cartes bancaires piratées qui diminue un peu, de 4%. Mais par contre, le fait qu'il y a 5,2% d'augmentation du volume d'argent détourné, ben ils l'ont caché à l'antenne. Donc il faut bien dire que voilà, c'est pas si beau, c'est pas si propre que ça, c'est pas si magique que ça. Ça continue de se tricher. Alors, l'essentiel des vols, hein, se fait de deux manières différentes. La première sur des distributeurs truqués. Ça, c'est pas mal en baisse quand même. Il y a eu 1600 cas en 2014, 1215 en 2015, hein, avec des fausses façades, vous savez, ça récupère votre carte ou ça récupère le code, enfin des choses comme ça, ou chez les commerçants, ça arrive quelques fois aussi. Donc ça, c'est plutôt en diminution, et puis il y a tout ce qui se passe sur Internet qui est en augmentation, bien évidemment, dû aussi à l'augmentation du nombre d'achats sur Internet avec les cartes bancaires. Donc là, ça augmente un petit peu. Il y a une analyse, c'est la première sur les paiements sans contact. On sait que les paiements sans contact sont des contacts beaucoup plus risqués, hein, puisque n'importe qui peut récupérer en s'approchant de votre carte bleue, puisque c'est lisible à quelques centimètres, dans le métro par exemple, récupérer ce qu'il y a, le contenu, une partie du contenu de la puce et s'en servir après pour payer. Alors pour l'instant, ces cas de vol sont très très minimes, donc ils sont contents. L'essentiel de la tricherie sur les paiements sans contact se fait avec des gens qui ont perdu ou dont leur carte a été volée. Et là, les voleurs l'utilisent chez le boulanger, le pâtissier. Comme ça, c'est pour des paiements de moins de 20 euros. En posant la carte, il n'y a pas de contrôle. Et c'est comme ça qu'il y a l'essentiel des fraudes pour l'instant, puisque le piratage des cartes RFID est resté faible, mais pas nul. Il faut quand même le dire. Donc, pour l'instant, ça serait plutôt une bonne nouvelle là-dessus. Enfin, ça vous rappelle que c'est pas un paiement beaucoup plus fiable que les autres, qu'il faut faire juste attention, et que la propagande du capitalisme et de la carte, du groupement des cartes bancaires qui disait que voilà, c'était fiable à 100%, on en est revenu depuis déjà de nombreuses années. Ah, c'est encore à moi? Alors un petit mot sur Bure, puisque on avait parlé, les militants avaient occupé la forêt qui était juste à côté de Bure, une forêt qui avait été en partie saccagée illégalement par l'ANDRA, hein, qui s'occupe du projet CIGEO, c'est le projet d'enfouissement des déchets nucléaires sur le long terme. Donc ils occupaient cette forêt, et ce matin, à 6h du matin, un important dispositif policier est arrivé dans cette forêt de Mandres en Barrois, et ils ont fait les sommations, mais en même temps ils ont tiré, donc ils ont tabassé, ils ont balancé des lacrymogènes, grosso modo ils ont viré violemment et manu militari les militants. Alors ça énerve certains, notamment il y a le maître Ambrose Eli, qui est l'avocat des opposants à CIGEO, qui est surpris. Il dit de multiples procédures juridiques sont encore en cours. Un recours contre la délibération de l'échange du bois par l'ANDRA depuis décembre 2015, qui s'est faite en catimini à 6h du matin, un bulletin secret, est en cours devant la justice. De même qu'une plainte pour infraction au code forestier. Donc il rappelle tout ça, il dit, et je comprends pas, malgré cette illégalité, ils attaquent ceux qui sont aussi là, finalement de manière illégale, mais qui défendent le droit à ce que tout se passe de manière légale. Alors lui, soit il découvre la vie, soit il fait semblant devant les médias, je pense qu'il fait semblant devant les médias. Effectivement, on a une constatation, une fois de plus, c'est que en fait, l'ANDRA a agi de manière illégale, hein, à travers CIGEO, on l'a bien compris, ça va passer devant la justice, mais comme l'ANDRA, c'est le bras armé de l'État pour gérer les déchets nucléaires, l'État, il s'en fout de la légalité, hein, puisque c'est l'État décide un peu ce qu'il veut quand même dans ce genre d'affaires, et l'État envoie virer les méchants défenseurs de l'environnement, et l'État soutient l'illégalité de l'ANDRA, c'est officiel, donc ça veut dire l'Agence Nationale des Déchets Radioactifs. Bon, bref, voilà, ils se sont fait expulser manu militari. Alors, la lutte n'est pas finie, bien évidemment, puisque vendredi, il y a une mobilisation sur place pour essayer d'empêcher l'arrivée des vigiles et des engins de déforestation. Et puis, le samedi 16 juillet, une grosse manifestation pour dénoncer cette poubelle atomique et nucléaire, comme ils le disent. Donc voilà pour ce projet horrible, hein, qui est ce CIGEO, qui est pas un bon projet pour gérer les déchets nucléaires, dont il faut se poser des questions, hein, puisqu'il va bien, il faut bien gérer ces déchets nucléaires, malheureusement. Il faut arrêter d'en produire, mais il y en a déjà à gérer. Et CIGEO, c'est a priori pas tout à fait la bonne méthode. On a fini ce qu'il y a eu info ?
Et ben voilà, on va faire un petit agenda.
Oui, tu voulais dire ?
Alors, tu veux peut-être commencer par samedi, la marche des fiertés.
Voilà, donc la marche des fiertés LGBT. Donc, comme d'habitude, ça part du 6e, donc c'est devant le lycée du Parc. Ça se terminera, donc c'est à 14h, ça se terminera à Quai des Célestins. C'est la 21e Gay Pride, comme on disait avant, avec cette marche des fiertés aujourd'hui. Et plutôt revendicatrice aujourd'hui, cette marche des fiertés, après notamment les attaques homophobes que subissent les homos tout au long de l'année, et surtout le massacre d'Orlando. Donc voilà, un mouvement, je pense, plus contestataire, tout en restant festif, sur cette marche des fiertés.
Et puis dimanche, un repas de quartier dans le quartier de Radio Canu, sauf que c'est en haut de la pente, il faut faire un petit peu bouger ses mollets.
Ouais, et c'est dimanche exceptionnellement que Tiens-Mont-la-Pente organise avec la CGA ce nouveau repas de quartier, donc avec toujours un espace de gratuité pour des vêtements, hein, si vous avez des vêtements que vous n'utilisez plus ou si vous cherchez des vêtements, vous pouvez venir voir ce qu'il y a, tout ce qui reste et après donner à des gens dans le besoin. Puis après, voilà, il y aura sûrement plein de surprises, et puis comme c'est un repas partagé, ben, vous amenez à boire et à manger. Et puis on partage tous ensemble, il y a de la musique, vous pouvez jouer à la pétanque, à la coinche, il y aura de la formation politique militante et plein de choses. Ça sera ce dimanche sous le soleil de la place Colbert.
Alors on vous rappelle aussi que d'une manière générale, les festivités à Lyon ont commencé avec tout le monde dehors. Ce festival qui n'en est pas un proposé par la ville de Lyon depuis déjà maintenant quelques années. Il faut rappeler un petit peu le fonctionnement, hein. C'est donc un appel à projet lancé par la ville de Lyon sur lequel des professionnels et des amateurs peuvent évidemment répondre. Il y a des liens dans la plupart du temps, la plupart des cas, avec les mairies d'arrondissement, pour essayer de voir aussi comment on peut valoriser aussi certains endroits dans certains quartiers. Moi, je trouve que ce projet a perdu beaucoup de son sens de départ. Il faut se souvenir que c'est un projet qui faisait un petit peu suite aux petites formes artistiques, souvenez-vous, qui avaient lieu sur les pentes de la Croix-Rousse, sur le premier arrondissement. L'idée, à l'époque, c'était des élus verts, hein, qui souhaitaient qu'il y ait des activités tout au long de l'été dans tous les quartiers de Lyon. L'idée, c'était un petit peu de sortir des habituels presqu'îles, hein, parce que tout se passe finalement dans cette presqu'île ou sur les pentes de la Croix-Rousse. L'idée, c'était de permettre aussi donc d'égayer ces quartiers, de proposer une activité à ceux et celles qui ne partent pas forcément en vacances pendant ces mois de juillet et d'août, de proposer aussi à des amateurs de faire leur premier pas dans l'occupation d'un espace public, de proposer évidemment à des pros de se mettre en valeur. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas bien, c'est festival, pas festival. Ce qu'il faut rappeler en tout cas, c'est que la ville de Lyon n'est pas organisatrice de ces activités. Les associations, qu'elles soient professionnelles ou que ce soit des amateurs, sont organisateurs. Hein, c'est leur responsabilité. Évidemment, la ville de Lyon participe financièrement, hein, à ces activités.
Et au niveau du matériel aussi, elle prête.
Tout à fait, elle prête. On rappelle, hein, que dans l'idée d'une collectivité, quand on vous prête une chaise, c'est de la subvention. Sauf que c'est une subvention en matériel. Matériel. Mais sinon, effectivement, la ville de Lyon subventionne avec de la pépette, l'argent. De l'argent, un certain nombre de ces activités. Mais il faut bien dire quand même une réalité, c'est que pour les pros, c'est une vraie question d'y participer. Ça ne vous fait pas bouffer. Hein, ça permet à des professionnels de voir, évidemment, comme je vous le disais, de se mettre en avant.
De voir un autre public, de se faire connaître.
Mais avec toujours la question de savoir que c'est des sommes qui sont parfois assez ridicules quand même sur les sommes qui sont proposées. Pour rappeler aussi que les mairies d'arrondissement n'ont pas beaucoup d'argent à mettre dans ces projets, donc il y a des choix qui sont effectués. Donc c'est une belle initiative à la base, qui je trouve a été largement dévoyée par Monsieur Gérard Collomb et par ses équipes actuelles. Malgré tout, ça reste de belles rencontres, il y a des beaux programmes.
Ça continue de faire vivre les quartiers l'été.
Ouais, non mais il y a plein de choses. Oui, mais ça reste quand même finalement un petit peu, moi je trouve qu'il y a une perte de sens. Cette idée-là, elle est moins transmise aussi au public. On a notre catalogue, notre programme. On aura aussi remarqué que cette année, il n'y a pas de page dédiée sur Internet et il n'y a pas de Facebook dédié à la manifestation, ce qui avait été le cas sur les éditions précédentes. Donc il y a quand même une espèce de repli, hein, dans l'affaire. C'est pas ce qu'a le plus envie de mettre en avant Monsieur Colomb et ses équipes. Mais comme je vous le disais, ça reste de belles rencontres. Il y a des beaux projets artistiques, des belles rencontres associatives. Donc voilà, il suffit juste de se déplacer et souvent ça se passe en bas de chez soi.
Voilà, et ce soir, c'est pas loin de chez une...
En fait, il y a plein de partout. Des fois, il y en a même deux, trois dans la même soirée, dans des quartiers différents. Ça, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire, justement, on n'est pas tous et toutes obligés d'aller au même endroit. Oui, même alors... s'il y a des soirées et des rendez-vous qui ont plus de succès.
Voilà, bien évidemment. Notamment le jardin... les musiques du monde du CMTRA qui sont organisées au Jardin des Chartreux, qui attirent des gens de tout Lyon, et ça c'est dommage, parce que c'est pas forcément vous qui habitez dans le 9e qui devez venir là, il y a des choses qui se passent dans votre quartier, regardez dans votre quartier en fait.
Le projet tu l'as connu aussi sur le projet de départ, qui était aussi le CMTRA était une association qui avait peut-être qui était déjà pas la même, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de modifications dans son organisation et dans ses activités, en tout cas dans la forme et le développement de ses activités. C'était un projet de quartier, avec aussi des gens de quartier qui avaient envie de faire vivre les musiques du monde, les musiques traditionnelles. C'était des gens absolument, et ce sont toujours d'ailleurs pour une partie, puisqu'il y a des équipes qui sont toujours en place, des gens absolument passionnés. Et puis c'est vrai que pour les gens du quartier, c'était quand même incroyable d'avoir ce jardin des Chartreux, dans lequel on pouvait, il est vrai, venir boire un certain nombre de coups, mais c'était aussi un endroit de rencontre, de musique. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est ces lieux, ces manifestations qui sont dépassées par l'ampleur du public. Ouais. Par le succès, c'est plutôt bien quelque part, même si évidemment ça change un peu la donne. Il faut savoir que justement il y avait eu un changement des financements sur ces Jeudis des Musiques du Monde, c'est-à-dire qu'à la base les Jeudis des Musiques du Monde faisaient partie des financements politiques de la ville, donc dans des financements très précis, avec des quartiers très précis, et puis effectivement le changement... on va dire le développement de son public a amené d'autres subventions. On vous rappelle aussi qu'à un moment ils avaient peur de les perdre, leurs subventions. Il y avait quand même une mobilisation qui s'était montée pour que tout ça perdure au Jardin des Chartreux. Donc il faut plutôt être content de ce genre de rendez-vous, mais c'est vrai qu'il y a un moment où il y a trop de monde et ça peut devenir désagréable pour tout le monde. Mais voilà, profitez-en. Oui. Et c'est ce soir, ça commence.
Voilà. C'est ce soir que ça commence pour le jardin.
Pour le jardin de Chartreux.
Le jeudi des Musiques du Monde, oui. Sinon, ça a déjà commencé. Tout le monde dort.
Voilà, voilà.
Eh bien, je crois qu'on a fini pour ce soir. On se retrouve très bientôt. Et peut-être demain pour un prochain Canu Info pour la prochaine équipe.
Ciao, ciao.
Bye, bye.